Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
On est mardi. Je suis un peu mêlé parce que, évidemment, on a eu une fin de semaine de 3 jours. Et là, je suis un peu perdu. On est bien mardi. Et là, mardi, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On lève le piton et on s'en va jaser avec notre chroniqueur Vincent Gelozo. Monsieur Gelozo, bonjour. Comment ça va, prof?
Bonjour, comment ça va?
Ça va très, très bien. Malgré qu'ici, l'hiver ne veut pas s'en aller, mais on me dit que ça va se régler dans les prochains jours. On annonce du 10, 12, 13 degrés. Fait que ça va...
Je peux-tu t'informer que j'étais en flip-flop et en short toute la fin de semaine?
Non, t'es pas obligé.
Non, ben, je l'ai fait.
Too late, hein, comme ils disent au sud.
Écoute, trop tard.
Fait que... on va tomber dans ton sujet comme ça. Ça va préserver ma santé mentale. Tu m'as envoyé une étude. Puis là, écoute, je te l'ai dit en ouverture. Le gars m'envoie des études secrètes. Ça me prend un code de professeur d'université pour l'ouvrir. J'ai pas pu l'ouvrir. Fait que tu me dis, oh, je t'ai envoyé la mauvaise. Mais je vais quand même, je me suis dit, garde, c'est pas grave. De toute façon, je vais laisser Vincent l'expliquer. Une étude sur l'économie sous des régimes populistes.
Oui, bien, en fait, premièrement, je vais m'excuser de t'avoir envoyé... je pensais que je t'avais envoyé le PDF d'une étude, mais écoute, puisque j'essaie de faire en sorte qu'on puisse toujours s'assurer que d'autres médias ne peuvent pas dire qu'ils ne parlent pas de fait, à chaque fois que je viens ici pour te jaser, je suis toujours avec une étude peer-reviewed.
C'est vrai.
Il faut donner ça. Celle-ci est vraiment, vraiment intéressante parce que présentement, puis j'avais pas réalisé ça avant de la lire en termes de proportion, sur Terre, présentement, 25% des nations peuvent être dites comme étant gouvernées par des régimes populistes.
Est-ce que, excuse-moi de t'interrompre à ce niveau-là, parce que est-ce qu'on a la définition? Parce que moi, si j'analyse avec mon analyse personnelle, je me dis tout politicien a une part de populiste. Il y a comme fait qu'est-ce qui fait qu'on décrit vraiment un gouvernement comme étant populiste?
Ben, la grande différence qui fait le populisme, parce que les gens vont dire souvent populisme, c'est un petit peu vaguement défini, mais il y a une définition très claire, c'est que tu fais un appel à le peuple contre le establishment ou le peuple contre les élites. Et l'idée, c'est que toutes les démocraties seraient des démocraties détournées par des élites très puissantes. Et tous les politiciens vont le dire à un certain niveau.
Oui, mais ben en fait, si tu veux défaire un gouvernement, souvent, c'est la première porte. Là, tu vas dire, écoute, ce gouvernement-là, comme on vient d'avoir M. Drainville, ben moi, je reproche à la CAQ d'avoir un gouvernement obèse qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis. T'sais, donc, est-ce que moi, je suis considéré comme populiste?
Non, c'est vraiment ici la chose qui serait importante, c'est de dire qu'il y a des élites malhonnêtes qui sont au sommet de l'échelle et qui essayent de manipuler le petit peuple. Et les leaders populistes qui sont dans des démocraties, c'est important de le dire, vont essayer de dire qu'ils sont en fait les représentants de ce peuple abusé contre des élites. Mais après ça, il y a d'autres caractéristiques qui viennent avec, notamment l'idée que s'ils en viennent à prendre le pouvoir, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes. Donc, c'est aussi les politiques qui défendent.
Okay.
Donc, tu pourrais avoir quelqu'un qui est populiste dans le discours, mais quand il arrive, il dit « on va conserver les institutions qu'on a, on va juste renforcer telle chose. »
Qui devient pragmatique,
Qui a une sorte de pragmatisme derrière, mais pas c'est pas quelque chose comme, disons, quelqu'un qui va arriver puis dire ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on me donne plus de pouvoir comme dirigeant. Il faut qu'on casse, disons, les cours de justice pour qu'elles fassent des choses qui sont à ma faveur.
Je comprends.
Moi. Donc,
revirer le tout envers lui et son parti. OK, je comprends.
C'est ça. Il faut que tu t'imagines que la personne qui est un leader populiste a un discours qui est avec des degrés d'autoritarisme dedans.
Ouais, ouais.
Donc, d'une certaine manière, tu pourrais dire que Québec solidaire fait des discours un peu populistes,
ouais.
Mais c'est pas du populisme dans la mesure que...
ils prendront jamais le pouvoir.
tu peux y aller avec ça, mais ils n'ont pas un discours qui est avec un appel à l'autoritarisme, à plusieurs choses.
Je comprends.
Donc, c'est pas c'est pas, il fit pas. Je pense qu'il joue avec la ligne. Là. Je pense qu'il faut quand même être honnête. Québec solidaire joue beaucoup avec la ligne ici au Québec. Puis des fois, il y a des discours en public. Puis il y a des discours, des fois, que quand ils se sentent moins visés ou moins regardés, ils se laissent aller un petit peu plus entre eux autres. Puis à ça, ils se font voir qu'ils sont à la caméra. Puis là, ils sont un petit peu moins contents. Mais publiquement, je pense pas. Je pense qu'il joue. Il y a juste des militants qui jouent avec la ligne. Je pense pas que le parti en soi est excessivement extrême. Mais quand tu regardes qu'est-ce qu'ils font, parce que le point, c'est pas juste de dire.
Oui, exact. Non, mais je l'ai défini, mais ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que dit cette étude-là?
Ben en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris toutes les études-là. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont utilisé une méthode où ils ont dit, OK, on va essayer de prendre tous les pays qui ont eu des régimes populistes, donc des présidents, des premiers ministres, et depuis l'année 1900, donc depuis plus d'un siècle, et on va regarder relativement aux pays les plus comparables qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vie des gens dans ces pays-là. Puis la réalité, c'est que 15 ans après l'arrivée au pouvoir d'un populiste, il va y avoir en moyenne une réduction du niveau de vie d'à peu près 10 % relativement à ce qu'il aurait été si le populiste n'avait pas pris le pouvoir.
Donc, c'est pire.
Oui, oui, c'est ça. Ça
a à chaque fois aussi. Ou en moyenne?
En moyenne, la moyenne, c'est... Ils sont pas mal tous négatifs. La question, c'est à quel point il y en a qui sont plus négatifs que d'autres. Donc, il n'y a pas d'épisode où est-ce que ça a été des réussites très, très parlante. C'est généralement des échecs, mais en moyenne, ils sous-performent de 10 %, mais il y en a que c'est beaucoup plus extrême. T'en as des moins 20 %, t'en as des moins 30. Donc, tu sais, t'as vraiment des cas assez extrêmes. Mais ce qui est cool de cette étude-là, puis il y a deux choses que je pense qu'il faudrait souligner pour les auditeurs, c'est que le résultat est le même pour les populistes de gauche que les populistes de droite, parce que quand tu regardes les politiques publiques qu'ils font, au pratico-pratique, il n'y a pas de différence. C'est des politiques publiques qui sont plus protectionnistes, qui impliquent un plus grand contrôle de l'État dans l'activité économique, serait-ce par la réglementation ou par un plus grand nombre de sociétés d'État. C'est un État qui s'adonne plus allègrement à la violation de droits de propriété privée des individus.
Même à droite?
Même à droite, donc tu sais, puis on peut le voir dans plusieurs régimes, par exemple, la Hongrie est un bon exemple de ça. Viktor Orban qui a gagné des élections, puis il faut quand même se rappeler qu'au début des années 90-2000, Orban faisait un discours qui était beaucoup plus libéral, comme nous on l'entendrait à l'intérieur de l'Occident, mais il a viré vers ce qu'on pourrait appeler le populisme. Et quand tu regardes les mesures qu'il a faites, c'est des mesures comme je te décris, c'est pas des mesures qui ouvre les marchés, qui s'ouvre au commerce international. C'est des politiques industrielles qui essaient de favoriser ce que moi j'appelle le capitalisme de copinage, mais il y en a d'autres qui appellent juste ça la politique industrielle. Et en même temps, plus de protectionnisme, plus de réglementation, plus de taxation. Et au net, quand tu regardes un Viktor Orban qui est plus à droite, mais tu peux comparer avec des cas moins à droite, comme par exemple... Chavez au Venezuela, tu te retrouves avec Jacob Zuma en Afrique du Sud, tu te retrouves avec à peu près les mêmes types de politiques publiques. Fait que c'est pour ça que les effets économiques sont à peu près les mêmes pour les populistes de gauche que les populistes de droite.
Bref, une fois assis dans le siège, tout le monde le trouve confortable. C'est un peu ça, là. Une fois bien installé, tu te dis, finalement, on coupera pas. On va en profiter.
Oui, puis non seulement ça, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ce qui est vraiment intéressant, qui a un dénominateur commun à travers les deux, c'est que le pouvoir en vient être instrumentalisé pour cimenter une coalition politique pour la préservation du pouvoir. Donc là, ça veut dire que tu essaies de donner des nananes à gauche, des nananes à droite, tu essaies de plaire à tout le monde. Et ce faisant, ce que tu fais, c'est que tu as des politiques publiques qui, des fois, disent « je vais donner à cette industrie-là des tarifs pour la protéger de la concurrence internationale ». Et sur l'autre main, tu dis « cette industrie-là, je vais lui donner des subventions pour qu'elle fasse de l'innovation, pour qu'elle puisse faire concurrence à l'international ». Et là, tu as cet ensemble de politiques publiques-là qui n'a aucune cohérence en termes de philosophie économique, mais qui a une cohérence dans la partie préservation du pouvoir politique. Et ce que tu te retrouves ultimement, c'est pour ça que les populismes de gauche et de droite se ressemblent beaucoup, c'est une forme de capitalisme de copinage entre...
C'est le pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir.
Ben exactement. Puis je pense que c'est aussi une bonne analogie pour ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de dire que de tous les côtés, il y a des forces illibérales qui assiègent la société, les idées que sont l'idée de l'Occident, c'est-à-dire un État limité qui se contraint à ses fonctions et que, dans laquelle la démocratie agit comme un garde-fou avec d'autres contraintes, des chambres hautes, des pouvoirs divisés entre les différentes branches de gouvernement, que ces attaques-là viennent de tous les côtés. Et ce qu'on est en train de faire avec ces attaques-là, c'est qu'on est en train de menacer les fondements de la prospérité qui ont fait l'Occident comme place, mais surtout les places qui ont adopté l'idée qu'est l'Occident.
Intéressant, tout ça. Merci beaucoup, Vincent. Toujours le fun. On se parle la semaine prochaine.
Toujours un plaisir. À la semaine prochaine.
Salut, bye. 14h21, on fait une pause parce qu'on va manquer de temps. Après la pause, ouais, on l'a rapatrié. Lui, on s'est dit que ça ferait du bien, jaser de sport. Puis en plus, il y en a pas mal. Ray Cloutier s'en vient.
Ouais. En direct.
Radio X.